Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. La seule utilité de la prévision en économie est de rendre l'astrologie respectable. Voilà ce que déclarait l'économiste américain John Kenneth Galbraith, reprenant une critique largement répandue, selon laquelle les prévisionnistes ne sont que des apprentis devins. Pourtant, de nombreux modèles économiques permettent, sinon de prévoir l'avenir, au moins de réduire l'incertitude. Et les astrologues aussi cherchent à maîtriser le futur. Alors les astres sont-ils le dernier recours en temps de crise ? La réponse se trouve peut-être chez Mercure ou Vénus. Merci d'écouter France Culture et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons scruter les mouvements des planètes en compagnie d'Arnaud Esquéré, sociologue chargé de recherche au CNRS et auteur de cet ouvrage « Prédire l'astrologie au XXIe siècle en France » publié chez Fayard en 2013. À 14h50, c'est une prédiction sûre. Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Certes, Khayyam n'est jamais bien loin de la cour. S'il évite de s'y incruster, s'il fuit et méprise toutes les intrigues, notamment celles qui opposent depuis toujours les médecins et les astrologues du palais, il n'en a pas moins des obligations auxquelles il lui est impossible d'échapper. Assister parfois au banquet du vendredi, examiner quelques émirs malades, surtout fournir à Malik Shah son takvim, son horoscope mensuel. Le sultan étant comme tout un chacun censé le consulter pour savoir chaque jour ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Le 5, un astre te guette, tu ne quitteras pas le palais. Le 7, ni saignée ni potion d'aucune sorte. Le 10, tu enrouleras ton turban à l'envers. Le 13, tu n'approcheras aucune de tes femmes. Jamais le sultan ne songerait à transgresser ses directives. Nizam non plus, qui reçoit son takvim de l'ama d'Omar avant la fin du mois, le lit avidement et s'y conforme à la lettre. Peu à peu, d'autres personnages ont acquis ce privilège, le chambellan, le grand cadi d'Ispahan, les trésoriers, certains émirs de l'armée, certains riches marchands. Ce qui finit par représenter pour Omar un travail considérable qui occupe les 10 dernières nuits de chaque mois. Les gens sont si friands de prédictions. Les plus fortunés consultent Omar, les autres se trouvent un astrologue moins prestigieux, à moins que pour chaque décision à prendre, ils ne s'adressent à un homme de religion qui, fermant les yeux, ouvre devant eux le Coran au hasard, pose le doigt sur un verset, dont il leur donne lecture afin qu'ils y découvrent la réponse à leurs préoccupations. Certaines femmes pauvres, pressées de prendre une décision, vont sur la place publique, recueillir à la sauvette la première phrase entendue qu'elles interprètent comme une directive de la Providence.
Bonjour Arnaud Esquéré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on vient d'entendre un extrait de Samarcande, le roman d'Amin Malouf, qui raconte l'histoire d'Omar Khayyam, ce poète et astronome de génie de la Perse du XIe siècle. Qu'est-ce que ce texte nous dit de l'importance qu'a pu avoir l'astrologie dans la prise de décision politique, mais aussi dans la vie quotidienne, Arnaud Esquéré?
Ce texte nous amène à nous rappeler que les prédictions astrologiques ont pu avoir un contenu politique et notamment qu'elles ont pu par exemple être une menace pour des dirigeants quand elles annonçaient la mort du à venir du dirigeant, raison d'ailleurs mise en avant pour interdire l'astrologie au XVIIe siècle par Louis XIV en France.
Il n'a pas apprécié qu'on lui prédise sa mort.
C'était en tout cas une des raisons pour lesquelles on a condamné des astrologues. Et l'astrologie telle qu'elle se pratique actuellement en tout cas le plus couramment, si je puis dire, à la fois sous la forme d'horoscope ou de consultation, a très largement perdu son caractère politique dans les énoncés, puisqu'elle s'applique davantage à la vie quotidienne, si je puis dire. Cela étant dit, je voudrais juste apporter une nuance supplémentaire, c'est que si vous voulez, on sait au fond très peu de choses sur le rapport même qu'entretient chacun aux prédictions astrologiques, et c'était un peu un des enjeux du travail que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'essayer de le comprendre au jour d'aujourd'hui, parce que si vous voulez, au fond, les historiens ou les romanciers, quand ils font des romans historiques, ils postulent un certain nombre de choses, mais ils postulent notamment, si vous voulez, là par exemple dans le roman qui était lu, que les directives sont suivies telles qu'elles sont dites. Est-ce que c'était le cas? C'est pas sûr, en fait, si vous voulez. Il y a toujours une part d'ambivalence, d'écart par rapport aux relations avec les prédictions. Et je pense, si vous voulez, qu'un des enjeux intéressants dans le travail qu'on peut faire par rapport à ça, c'est de réfléchir sur quel est le rapport qu'on a à des énoncés sur l'avenir, et non pas simplement comment on produit des énoncés sur l'avenir.
Mais le point de départ, effectivement, Arnaud Esquerré, c'est ce goût pour la prédiction. Les gens sont si friands de prédictions, fait dire Amin Maalouf à Omar dans l'extrait qu'on a entendu. C'est encore vrai aujourd'hui, et peut-être plus que jamais dans la période qu'on vit.
Les gens sont friands de prédictions, c'est-à-dire que les gens sont intéressés pour savoir ce qui va leur arriver, et d'une manière générale, on peut dire quasiment anthropologique, et c'est d'autant plus vrai quand il y a une grande incertitude sur ce qui peut survenir. Donc les prédictions astrologiques, comme d'autres types de prédictions, peuvent avoir un succès d'autant plus fort que l'incertitude dans laquelle les gens sont plongés est importante.
Et alors, qui est-ce qui consulte? Ce que vous soulignez, c'est que toutes catégories sociales confondues, ce sont surtout des femmes.
Dans l'enquête que j'ai pu mener et d'autres enquêtes qui existent, il apparaît que les femmes effectivement consultent davantage des astrologues ou même des voyants, des voyantes que les hommes. Au fond, cette asymétrie entre les hommes et les femmes n'est jamais très bien expliquée. Moi, l'interprétation que j'en donne, c'est précisément parce que l'incertitude est peut-être plus grande concernant la situation à venir, par exemple professionnelle, etc.
C'est important, effectivement, le monde professionnel, puisque ce que vous soulignez aussi, c'est que ce sont essentiellement des inquiétudes d'ordre professionnel qui font que les gens vont consulter des astrologues.
C'est-à-dire que dans une séance, quand quelqu'un décide d'aller consulter un ou une astrologue, la séance peut être ratée, mais la séance peut être réussie du point de vue de celui qui va consulter, que j'appelle le consultant ou la consultante. Et lorsqu'elle est réussie, elle est réussie parce que, au cours de cette séance, la personne qui vient consulter permet, va envisager son avenir. Il se trouve que l'astrologue va séquencer son avenir, mais tout d'un coup va pouvoir se projeter en quelque sorte, et donc réduire une part d'incertitude, ou tout simplement imaginer un avenir qu'elle n'arrivait pas à l'imaginer.
Mais pourquoi avoir besoin davantage de réduire l'incertitude sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, par exemple?
Bien parce que, au fond, si c'est une incertitude radicale sur l'avenir, c'est extrêmement difficile à supporter. Je pense que et donc ça, c'est il y a cet aspect-là des choses, où ça peut être tout simplement en fait qu'on est face à des difficultés telles qu'on n'arrive pas à se projeter au-delà de ces difficultés. Donc une séance, ce qui peut être demandé dans une séance avec un astrologue ou une astrologue, c'est au fond d'imaginer, d'arriver à se projeter dans l'avenir, premièrement, et deuxièmement, quand on est face à des difficultés, d'imaginer qu'est-ce qu'il en sera après cette difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une période heureuse? Je relisais des extraits de consultations que j'avais pu consulter, et il y avait un astrologue qui disait heureusement le meilleur est à venir. Mmh. Et c'est vrai que ça permet à la personne de se projeter, de lui donner de l'énergie en quelque sorte par rapport à son futur.
Qu'est-ce que l'on recherche exactement lorsqu'on consulte un astrologue? Écoutez ce qu'en disait le philosophe et sociologue Théodore Adorno dans son ouvrage « Des étoiles à terre » paru en 1956.
Qui veut survivre dans les conditions actuelles est donc tenté d'accepter des absurdités comme le verdict des étoiles, plutôt que d'essayer de les comprendre. Ce qui supposerait un effort de réflexion susceptible d'attirer sur l'individu des difficultés et des ennuis de tout ordre. En ce sens, l'astrologie se trouve en phase avec une tendance générale. Dans la mesure où le système social représente, indépendamment de leur volonté et de leurs intérêts, le destin de la plupart des individus, on le projette dans les étoiles de façon à lui conférer un degré supérieur de dignité et de légitimité dont les individus espèrent bénéficier. Simultanément, l'idée selon laquelle les étoiles peuvent fournir des conseils atténue l'angoisse de l'inexorabilité des processus sociaux que l'observateur des étoiles lui-même crée.
Selon Adorno, consulter un astrologue revient en quelque sorte à légitimer ou à accepter le système social tel qu'il existe, Arnaud Esquéré.
Alors Adorno a fait une étude extrêmement intéressante. D'ailleurs, c'est un des grands mérites de ces personnalités de l'école de Francfort, d'être allé chercher dans la culture populaire des objets et de les analyser de manière extrêmement souvent stimulante, en tout cas. Et donc Adorno a fait une enquête au début des années 50, en 1952-1953, si je ne m'abuse, sur un journal, sur les horoscopes d'un journal américain qui était écrit par un célèbre astrologue, Carol Reuter, a montré en fait au fond notamment que les horoscopes étaient rédigés de telle sorte que dresser le portrait d'un monde stable et amener à conserver en fait le monde tel qu'il était. Mais lui a ajouté quelque chose que sur lequel j'ai eu quelques interrogations, qui était que en fait la lecture de l'horoscope plaçait celui qui le lisait en position de soumission à l'autorité.
Il y a des mots assez durs effectivement envers ceux qui consultent les horoscopes ou qui consultent les astrologues.
Alors là où il a raison, et j'ai refait ce travail à partir d'un autre journal en France dans les années 50 qui était Jour de France, à partir d'horoscope qui était publié cette année-là, et puis même à partir d'horoscope plus récent, si vous voulez, c'est que les horoscopes d'une manière générale sont rédigés de telle sorte qu'ils décrivent en fait le monde tel qu'il est, et donc au fond sont conservateurs, parce que un bon horoscope, c'est un horoscope enfin qui en fait sait bien parler du monde dans lequel évoluent ceux qui le lisent. Cela étant dit, la limite en fait de l'étude d'Adorno, c'est qu'il n'a précisément aucune idée du rapport que les lecteurs ont par rapport ont avec le texte qu'ils lisent. Ils le postulent en fait, ils le postulent comme étant quelque chose d'un rapport de soumission au texte, et c'est l'époque dans laquelle il écrit en fait un ouvrage important sur la personnalité autoritaire, et donc défend cette notion d'autorité. Je pense que c'est tout à fait contestable, et que pour la plupart des lecteurs d'horoscope, le rapport à l'horoscope est extrêmement différent, et je ne pense pas que si vous lisez votre horoscope, vous vous sentiez soumise à la lecture de votre horoscope.
Sur les effets de la lecture d'un horoscope ou de la consultation d'un astrologue, je voudrais vous faire entendre ce qu'explique Claude Ness, qui est directeur de la société Divinitel et qui explique que de nombreux dirigeants d'entreprises consultent des astrologues.
80% des gens qui nous contactent, ce sont des chefs d'entreprise qui sont au bord du gouffre, du licenciement. Ils sont prêts à tout, à investir leurs dernières économies pour que ça fonctionne. On rentre dans une entreprise, vous voyez, actuellement, vous m'interviewez, j'ai un voyant qui est dans une entreprise dans le 95, qui ne va pas tarder de revenir, et il était faire directement un travail occulte sur une société qui ne fonctionne plus. Une société qui faisait 3 millions de chiffres, 6 millions même de chiffres d'affaires par mois, qui est tombée à 1 600 000. le voyant est parti sur place pour faire ce travail pour que ça fonctionne. Parce que les chefs d'entreprise qui viennent nous voir, en fin de compte, savent le pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais en fin de compte, ils vont voir leur voyant et ils veulent avoir la confirmation de ce qu'ils savent déjà. Il faut bien vous dire que Divinitel, quand Divinitel rentre dans une société, on a carte blanche. On a un pouvoir d'embauche comme de licenciement. Si nous disons au chef d'entreprise, telle personne est négative pour vous au sein de votre entreprise, le chef d'entreprise licencie immédiatement.
Extrait d'une interview diffusée sur France Culture le 21 avril 1990. Vous êtes d'accord avec cela, Arnaud Esquéré? On va voir un astrologue pour confirmer ce que l'on sait déjà.
On va voir C'est-à-dire, c'est plus exactement, quand lors d'une séance avec un astrologue dont le consultant ou la consultante considère que la séance l'a aidé, ce qui se joue dans la séance est d'arriver à dessiner un avenir pour la personne. Très souvent, le consultant ou la consultante a le sentiment de n'avoir pas parlé. Or, quand on analyse très finement, comme j'ai pu le faire, en fait, ce qui se passe pendant une séance, et c'est vrai d'ailleurs pas seulement pour les séances d'astrologie, mais pour les séances avec des médiums que d'autres collègues ont pu étudier, ou des séances avec des désorceleurs qu'une célèbre anthropologue, Jeanne Favre-Saada, a pu étudier. En réalité, le consultant ou la consultante ne cesse en fait de guider l'astrologue qui fait des mouvements dans le futur, par exemple en faisant le thème astral de la personne qui vient le voir, et puis ensuite lui soumet des informations sur le présent ou sur le passé pour savoir en fait pour être au plus proche en fait des préoccupations et des problèmes de la personne avant de reformuler de reprojeter en fait la vie de la personne dans le futur. Et donc il y a en fait quand on observe de très près comment ça se passe, c'est une coproduction et il y a un jeu permanent entre le futur, le présent, le passé, le futur.
Le consultant se dit l'astrologue qui est en face de moi a su lire en moi, mais il ne s'est pas rendu compte que finalement il lui a donné énormément d'informations qui permettent effectivement à l'astrologue de dessiner un avenir possible, crédible.
Tout à fait. Quand ça fonctionne, c'est tout à fait ce qui se passe. Ça peut être des hochements de tête, ça peut être juste un petit bruit comme ça. Ou alors, le consultant ou la consultante peut dire ah non, pas du tout, ce qui en fait oriente à nouveau la direction de l'astrologue.
Le directeur de la société Divinitel, qu'on a entendu à l'instant, parle aussi du pouvoir qui se trouve entre les mains des astrologues, un pouvoir qui peut être dangereux. Arnaud Esquéré, là, ça relance cette question autour de l'effet réel sur les actes des personnes.
Le pouvoir qu'on leur prête, faut regarder s'il y a un danger, c'est-à-dire s'il y a des enjeux qui sont des enjeux juridiques, on pourrait considérer par exemple que ce sont des escrocs et faire appel à un article du code pénal qui serait l'escroquerie ou alors l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne. Donc il y a des outils juridiques qui permettent de limiter ce type de pouvoir. Comme vous savez, je suis sociologue, je fais des enquêtes, donc j'attends de mener une enquête pour m'assurer en fait de la réalité de ce pouvoir. J'ai quelques réserves avant d'avoir mené une enquête.
Et alors que se passe-t-il lorsque l'astrologue doit annoncer un grand malheur? Écoutez cet extrait de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Cléo qui est une jeune chanteuse qui redoute d'être atteinte d'un cancer pour en avoir le cœur net. Et avant de recevoir les résultats de ses examens, elle décide de consulter une cartomancienne.
Tirez 4 cartes. Ah, le pendu, c'est le changement, ça se confirme. Elle parle très bien, cette carte, mais c'est la souffrance. Vous êtes malade?
Oui.
Ah oui, vous voilà, la femme, Vénus Astarté. C'est sur vous, la maladie.
Oui, moi.
Et là, je vois une nouvelle connaissance. Vous allez rencontrer un jeune homme. Un bavard, un bonimenteur, il vous amusera. Il n'était pas sorti dans votre jeu précédent, c'est une surprise. Ah, mais tout ne va pas bien, il y a un bouleversement. C'est votre maladie que vous prenez trop à cœur.
J'en étais sûre. C'est grave, n'est-ce pas?
Oui, c'est grave, mais il ne faut rien exagérer. Tirez encore une carte. Il faut réfléchir, il faut voir.
Pour voir ça, merci.
Vous vous trompez. Cette carte n'est pas forcément la mort. Les pieds et les mains sont couverts de chair. C'est une transformation profonde de tout votre être.
Assez, taisez-vous. Depuis 2 jours, je le sais. Dès qu'on m'a fait un prélèvement, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'attendre de résultats. Et dans ma main?
En main, je n'y connais rien. Je ne sais pas.
C'est donc si grave?
Voyons, mon petit, vous n'êtes pas raisonnable de pleurer comme ça. Qu'est-ce que vont penser les clients qui attendent? Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure.
Et oui, annoncer des mauvaises nouvelles, ce n'est pas bon pour le business. Arnaud Esquiré, d'où cette tendance des astrologues à minimiser les malheurs à venir?
C'est plutôt, si vous voulez, que, au fond, la question qui se pose très souvent par rapport aux prédictions astrologiques, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et la manière dont ça a été contesté a été de l'interroger par rapport à la question de la vérité. Je pense qu'il faut se poser une autre question qui est quelle est la fonction que remplit le recours aux prédictions astrologiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des gens vont voir des astrologues ou des voyants, etc. Et même si, par exemple, des prédictions se sont révélées fausses, ils continuent à y aller. Alors, la réponse à cette question, à mon sens, c'est que ils vont y chercher quelque chose qui est une aide. Hein, je pense que prédire, c'est, en tout cas pour ce cas-là, c'est aider, être aidé par le temps, et donc de l'énergie. C'est pour ça que je dis que certains énoncés astrologiques peuvent avoir certaines prédictions peuvent avoir un effet roboratif, c'est-à-dire redonner de l'énergie. Dès lors, quand on fait des analyses, par exemple sur des horoscopes, comme j'ai pu le faire, on montre en effet que le nombre de prédictions positives est supérieur au nombre de prédictions négatives. S'il n'y avait que des prédictions positives, ça perd un peu de son sens, puisque pour donner en fait de la force à une prédiction positive, il faut aussi qu'il y ait un peu de prédictions négatives. Mais un des éléments, c'est de mettre davantage de prédictions positives que négatives. Une autre caractéristique, c'est que par exemple dans une consultation, après une période négative, vous avez une période positive. Donc vous imaginez qu'ensuite il va arriver quelque chose de positif.
Donc ce que les astrologues essayent de créer, d'insuffler, c'est de l'énergie, de la foi en l'avenir, et là on se dit que l'astrologue se veut peut-être de plus en plus psychologue et qu'il surfe aussi sur la vague du développement personnel qui est extrêmement présente depuis quelques décennies.
Alors, on a souvent en tête que l'astrologie serait une pratique qui n'aurait pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité grecque, si je puis dire. C'est tout à fait faux. C'est au contraire une pratique extrêmement plastique, d'autant plus plastique qu'elle a pas d'institution qui permette de la stabiliser. Et une des caractéristiques de la pratique astrologique au XXe siècle, qui d'ailleurs au début du XXe siècle était donnée pour quasiment morte, et qu'après-guerre, elle s'est en grande partie croisée en France, en Europe, avec la psychanalyse développée par Jung, qui lui-même était très intéressé par l'astrologie, et a intégré en quelque sorte des éléments de psychanalyse jungienne, et notamment en s'orientant pour une partie des astrologues, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ont des pratiques très différentes, mais pour une partie d'entre eux, vers un mode de consultation qui est proche d'une consultation de thérapie brève en quelque sorte. Donc donc si vous voulez, ce mouvement s'est fait après-guerre et puis s'est développé notamment dans les années 60-70.
Et donc finalement, l'objectif, c'est davantage d'aider les gens à interpréter leur vie quotidienne plutôt que de prédire l'avenir.
C'est les deux, c'est-à-dire c'est en fait arriver à placer la personne qui vient consulter en surplomb par rapport à son existence pour lui donner du recul en quelque sorte par rapport à ce qui lui arrive, que ça soit professionnellement, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue familial, etc. Et à anticiper l'avenir en fait.
Sur cette place croissante de la dimension psychologique dans l'astrologie, vous diriez que ce que ça nous dit, c'est que finalement l'astrologie est un miroir des évolutions de la société?
Je pense pas que ça soit un miroir des évolutions, parce que y a pas de, ça fait partie de la société en fait. Donc c'est plutôt que le fait qu'elle soit présente témoigne du fait qu'elle a su s'adapter par rapport à des évolutions de la société, et le fait qu'on y ait davantage recours à certaines périodes témoigne du fait que peut-être y a davantage d'incertitudes par rapport à la manière d'envisager la vie. Et aussi, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que quand on demande à des consultants ou des consultantes qui vont voir des astrologues, pourquoi ils vont voir des astrologues plutôt que quelqu'un d'autre, en fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas, ils ne trouvent pas de réponse, ou ils ne sont pas contents de leur psychanalyste, par exemple, ou de leur thérapeute, qu'ils ont été déçus. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui, en fait, vont voir des astrologues et puis ensuite sont déçus de l'astrologie et considèrent que ils ont perdu tout intérêt pour l'astrologie.
Readings in astrology. 1, 2, 3, 4. Readings in astrology never meant that much to me. The woman I thought was just so, she now tells me we ain't compatible. She says, see, look right here on the paper, you should be loving your neighbor. Loving my neighbor's out of sight, but I'm your man and I'm just trying to do right. Some trouble coming right here with this funky woman. The love I thought she had for me, and I see it's gone to some astrology. Well, baby, I can see your face. You better wake up before it's too late. Straighten up and make up your mind. You need a horoscope to find another love sign.
Readings in Astrology de Curtis Mayfield, qui raconte dans cette chanson comment les astres l'ont séparé de sa petite amie. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, suite de notre discussion sur les marchands d'avenir, en compagnie du sociologue Arnaud Esquéré. Alors entrons à présent dans l'univers des astrologues. D'abord, je vous propose d'écouter le témoignage d'un professionnel, Albert Marchand. Il décrit son travail dans une archive de 1954.
C'est une science conjecturale, beaucoup plus que prédictive à mon avis. Et sa valeur est surtout dans les renseignements qu'elle peut donner sur la psychologie d'un individu, sur son comportement et sur ses aptitudes. Dans le domaine de la pronostication, évidemment, là, il y a certainement un peu plus de flou. Soit qu'il faille tenir compte de ce que cette science n'est pas absolument parfaite, rien n'est parfait, soit qu'il faille admettre que le libre arbitre humain joue dans une certaine mesure, et même dans une mesure assez grande, qui peut par conséquent s'affronter avec le déterminisme céleste. C'est une affaire d'inspiration, surtout. Ce sont ce qu'on appelle des jalons, qui permettent à l'intuition du devin de se manifester. Mais l'astrologie, c'est tout autre chose, car nous nous fondons ici sur des données réelles, sur les positions astrales au moment de la naissance. Par conséquent, ce sont des schémas que nous établissons et qui sont objectifs.
L'astrologie doit être vue comme une technique, contrairement à la voyance qui relève du don, Arnaud Esquéré.
En tout cas, c'est ainsi souvent que les astrologues effectivement se différencient des voyants, c'est-à-dire qu'ils considèrent que, étant donné qu'ils ont les mouvements des planètes et les éphémérides pour élaborer un thème astral, ils peuvent avoir des techniques prédictives qui ne sont pas celles de la voyance. Cela étant dit, pour ce type de, il y a tout un ensemble de techniques prédictives qui peuvent être la numérologie, la voyance, la chiromancie, etc. Et évidemment, un des enjeux pour chaque personne qui fait profession, en tout cas, ou qui a recours à ce type de technique, c'est d'être considéré comme sérieux par rapport aux autres. Et donc, il y a sans arrêt, si vous voulez, en fait, un enjeu, notamment lorsque ce sont des professionnels, c'est-à-dire des gens qui gagnent leur vie par rapport à, en donnant ce type de consultation, de se montrer plus sérieux que l'autre, c'est-à-dire l'astrologue plus sérieux que le voyant, etc.
Et au cœur de l'astrologie, entre ceux qui font des consultations et ceux qui rédigent des horoscopes, là aussi, il y a un enjeu et ça
fait
des
divisions importantes. Et au cœur de l'astrologie, tout à fait, il y a sans arrêt, en fait, des différences. Je suis plus sérieux que mon voisin. Je fais des consultations en cabinet et pas en salon. Je fais des consultations et j'écris pas des horoscopes. Les horoscopes, c'est pas sérieux, etc. Donc ça, vous avez tout un système de différenciation par différence qui se met en place pour asseoir sa crédibilité, en quelque sorte, professionnelle.
Voilà. Les astrologues, par exemple, qui consultent, vont dire que rédiger un horoscope, c'est à la fois, vous l'avez dit, pas assez sérieux, mais aussi facile, alors même que, même si c'est moins compliqué qu'étudier le thème astral d'une personne, il y a tout de même une technique dans l'élaboration d'un horoscope.
Dans l'élaboration, dans l'écriture d'un horoscope, il y a une technique, c'est-à-dire normalement, il y a une technique qui est une technique liée aux éphémérides, mais il faut, encore une fois, penser à qu'est-ce que c'est qu'un horoscope, c'est-à-dire un horoscope souvent est publié par un journal ou ça peut être maintenant sur des applications, donc ça veut dire s'adresser à un public, et donc c'est aussi en fait un genre d'écriture, et un horoscope qui s'adresse à quelqu'un doit être rédigé par rapport à la personne à laquelle il s'adresse. Donc si vous écrivez des horoscopes ne serait-ce même que dans le style de l'écriture qui en fait paraît complètement éloigné à celui qui le lit, à ce moment-là, l'horoscope est totalement raté.
Et alors, il faut pouvoir se former en tant qu'astrologue, et c'est principalement dans les manuels d'astrologie qu'on se forme. Arnaud Esquéré, qu'est-ce qu'on trouve dans ces manuels d'astrologie ?
C'est-à-dire que pour les gens qui veulent se former en astrologie, très souvent, en fait, ce sont des gens qui en fait décident de s'intéresser à l'astrologie, ou bien en ayant lu un livre, ou bien en ayant été à une consultation alors qu'ils n'y connaissaient rien, et puis tout d'un coup ils se disent je vais m'intéresser davantage à l'astrologie. Et donc là, les moyens qu'ils ont pour se former, ça peut être effectivement de lire des traités d'astrologie pour élaborer des thèmes astro, ou ça peut être aussi de suivre des enseignements dispensés par d'autres astrologues. Mais si vous voulez, la formation passe aussi d'une certaine manière par la pratique, au sens où la personne en fait commence à dresser le thème astral de ses proches, et puis elle-même va vous consulter, et donc en consultant il y a quelque chose d'un savoir technique, si je puis dire, qui se transmet.
Et qui sont alors ces astrologues, Arnaud Esquéré, vous qui avez mené une enquête sur le sujet? Est-ce qu'on devient souvent astrologue quand son père ou sa mère était astrologue avant soi?
Non, enfin alors en tout cas c'est intéressant d'ailleurs de comparer la situation en France et dans d'autres pays comme l'Inde. J'ai un collègue, Emmanuel Grimaud, qui a travaillé sur l'astrologie en Inde, et si vous voulez, en France c'est en généralement, c'est pas toujours le cas, il peut y avoir des exceptions évidemment, mais généralement c'est pas quelque chose qui se transmet à l'intérieur de la famille, alors qu'en Inde, au contraire, il peut y avoir des transmissions chez des familles de brahmanes sur plusieurs générations d'un savoir astrologique, d'une pratique, d'une profession en fait de l'astrologie. Ce sont des choses en fait plutôt qui surviennent au cours de la vie d'une personne. Mais encore une fois, là on s'est focalisé sur l'astrologie, mais il faut voir en fait que c'est dans un espace qui est un espace un peu plus large, et dans lequel on va avoir aussi un intérêt pour la voyance, pour le développement personnel que vous mentionnez tout à l'heure.
Ce ne sont pas du tout des univers hermétiques.
Ce ne sont pas des univers qui sont séparés les uns des autres, et en fait il peut y avoir très souvent quand même une circulation entre ces différentes techniques et types d'intérêts et de mode de vie aussi.
Les yeux, le front, le visage, qui sont autant pour moi d'informations. Je sais si j'ai affaire à un nerveux, un bilieux, un sanguin, un digestif, par exemple. Je me réfère à la typologie qu'on utilise en matière de médecine pour ça. Alors, selon le type général de mon individu, le problème qu'il m'expose, puis les renseignements qui me sont fournis par ces données astrologiques, j'arrive à cerner assez bien mon personnage, mais j'ai besoin d'entrer chez lui. Et c'est pour ça que je le regarde de cette manière.
Oui, mais vous savez tout trop vite.
Mais non, non.
Il n'y a plus de surprise.
Mais si, il y a des surprises. Il y a des explorations qui me sont interdites ou qu'on veut m'interdire. Celles-là, je fais de plus grands efforts pour les réaliser.
Vous savez ce qui vous arrivera dans la vie? Vous pouvez dire pour vous ce que sera demain?
Oui, je peux le dire, bien sûr. Ne croyez pas que dans mon métier, un astrologue n'est pas capable de voir ce qui peut lui arriver dans les grandes lignes. On peut même, au jour le jour, quand on a le temps, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, eh bien prévoir les événements les uns après les autres.
L'astrologue Germaine Soleil au micro de Jacques Chancel sur France Inter. Est-ce que l'astrologie peut être une source de gains importants pour ceux qui la pratiquent, Arnaud Esquéré?
Sans doute, il doit y avoir quelques astrologues pour qui, en fait, c'est une source de revenus importante. Mais en tout cas, la plupart des astrologues professionnels que j'ai pu rencontrer, c'est une source de revenus. Enfin, c'est difficile parce que d'abord, en fait, très souvent, quand vous allez consulter un astrologue, vous n'y allez pas toutes les semaines ou deux fois par semaine comme chez un psychanalyste. Donc, vous pouvez y aller une seule fois par an. Donc, il faut faire une clientèle avec des gens qui viennent vous consulter une fois par an ou deux fois par an. Il faut avoir beaucoup de monde.
Et il y a beaucoup de concurrence aussi entre les astrologues.
Il y a de la concurrence entre des astrologues. Il y a de la concurrence entre aussi des gens qui sont avec des voyants, avec des voyantes, avec des numérologues. Enfin, donc avec tout un tas d'autres. Il y a des salons dans lesquels en fait les personnes peuvent avoir tout un ensemble de techniques prédictives qui sont exposées. Donc là effectivement c'est très concurrentiel. Et d'ailleurs assez souvent des astrologues professionnels peuvent faire du développement personnel, peuvent proposer de l'hypnose, peuvent faire du coaching, peuvent je pense que c'est pas au-delà de quelques noms qui sont des noms connus du grand public parce que ces astrologues ont acquis une notoriété. Je pense que c'est une minorité et que l'astrologue le plus commun, en fait, c'est plus compliqué.
Et comme l'écrivait Amin Malouf dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, il y en a pour tous les budgets. Une séance d'astrologie, ça coûte combien à peu près?
Une séance d'astrologie, ça peut être entre 50 à 200 euros, je dirais, pour les tarifs du marché.
Est-ce que ça existe, des astrologues qui font payer des sommes absolument démesurées pour une séance?
Ça peut être que ça existe, mais j'ai pas eu accès à eux.
Et comment, et vous parliez tout à l'heure, Arnaud Esquéré, de la nécessité de mettre en avant des gages de sérieux quand on est astrologue. Par quoi est-ce que cela passe? Cela passe par exemple par le fait de se distinguer d'autres pratiques divinatoires, le fait de se distinguer de ceux qui ne font que des horoscopes. Comment est-ce que les astrologues essayent de mettre en avant leur sérieux?
Il y a deux choses. Il y a se présenter sérieusement, pas sur, on va dire, sur publiquement, d'une manière générale. Et puis, il y a être sérieux par rapport à des clients ou des clientes, ou à des consultants ou des consultantes. Et là, l'enjeu est très fort parce que, si vous voulez, quand vous avez un titre qui est garanti par une institution, vous êtes à ce moment-là, même si vous n'êtes pas bon, vous avez un statut qui est garanti par cette institution. Un astrologue, quelqu'un, un consultant ou une consultante qui vient voir un astrologue, Et puis, en fait, qui dit, mais c'était vraiment nul, le bouche à oreille aussi, qui est important hein, pour ce type de... va dire, en fait, ne va pas le voir, etc. Donc, son enjeu de réputation est tout de suite mis en cause. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est important, que, si je puis dire, pour l'astrologue, en tout cas pour d'un point de vue professionnel, que ça soit... que ça soit réussi pour le consultant ou la consultante.
Ce que vous soulignez, c'est que aujourd'hui, l'astrologie ne fait pas l'objet ni de réglementation, ni de condamnation spécifique de la part de l'État.
Il y avait eu au début du 19e siècle, dans le code pénal de 1810, un article du code pénal qui condamnait en fait d'une amende les gens qui faisaient métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes, qui était l'article 479 du code pénal de 1810. Et puis qui est un article qui a été supprimé dans les années 1990. Et quand on regarde la jurisprudence, on s'aperçoit en fait qu'il y a eu très peu de condamnations. C'était un article qui était peu appliqué. Donc, effectivement, on peut faire ce métier sans être visé spécifiquement, si vous voulez, en quelque sorte, par une condamnation. Cela étant dit, il y a d'autres dispositifs juridiques qui peuvent exister, qui sont notamment hein, l'escroquerie ou l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, et qui peuvent être mobilisés ou notamment si évidemment s'il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire si en fait il y a des sommes importantes qui ont été données, par exemple si suite à une prédiction une personne vous léguait tous vos biens à votre astrologue,
c'est suspect.
Il peut y avoir une action en justice qui peut être menée.
Ce que l'on comprend bien, Arnaud Esqueré, c'est qu'il y a eu des allers-retours dans l'histoire, dans la conception qui pouvait être faite de l'astrologie. Elle était bien perçue, par exemple, sous l'Antiquité, mais elle a ensuite été condamnée par l'Église catholique en France à partir du XVIe siècle.
Oui, elle a été condamnée parce que, si vous voulez, la question qui a été posée, c'était aussi la question de savoir si les actions des êtres humains, en fait, étaient causées, en fait, avaient une causalité astrale ou quelle était la place, en tout cas pour la religion, par l'Église catholique, quelle était la place de Dieu par rapport aux agissements des êtres humains. Donc, effectivement, elle a été condamnée.
Quelle place pour Dieu, pour les astres et pour le libre arbitre?
Absolument, c'était l'enjeu. Je pense, si vous voulez, que au jour d'aujourd'hui, il y a plus tellement d'enjeux par rapport à la pratique de l'astrologie. Je veux dire d'enjeux, en tout cas. Pour l'Église catholique.
Vous parlez de la condamnation au début du 19e siècle de certaines pratiques astrologiques. C'est dans ce contexte que l'astrologie a cessé d'être enseignée, comme l'expliquait sur France Culture l'astrologue Elisabeth Tessier. C'était le 12 septembre 2010.
L'astrologie n'est plus enseignée depuis 1821, où il y avait la dernière chaire d'astrologie en Allemagne, à Würzburg. Mais avant, elle avait été enseignée partout en Europe. Il fallait apprendre l'astrologie absolument de la même façon qu'un médecin. Un médecin était toujours aussi astrologue. Un astrologue était médecin, d'ailleurs. Et à Bologne, au fronton de la faculté de médecine, il y avait un médecin sans astrologie est un médecin qui ne peut pas voir. Donc, elle régnait en maîtresse pendant la Renaissance et jusqu'au rationalisme, comme je disais. Et le problème, je crois, c'est que dès qu'une matière n'est plus enseignée, elle tombe en désuétude. Il n'y a plus que les marginaux, les esprits très curieux qui cherchent en marge. C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
L'astrologie a perdu de son influence, Arnaud Esqueré, au cours des deux derniers siècles. On a tout de même constaté un retour en force dans les années 70 et plus encore 20 ans plus tard avec l'essor d'Internet.
Il y a un franc succès de l'astrologie, effectivement, dans la dernière partie du XXe siècle. Mais je voudrais quand même juste commenter la déclaration d'Elisabeth Tessier sur un point, quand même, parce que c'est, si vous voulez, la question du rapport entre la science et l'astrologie, je pense qu'il faut quand même en dire un mot. C'est-à-dire que, sur ce point-là, je me référais à un historien des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a travaillé sur un grand historien des sciences. Et qui d'ailleurs critiquait en fait une critique qu'adressait à quelqu'un d'autre qui s'appelle Karl Popper à l'astrologie. Karl Popper considérait au fond que le problème de l'astrologie c'était de faire des prédictions fausses. Or Thomas Kuhn dans son Histoire des sciences montre bien en fait que ça peut pas être un critère qui peut être mis en avant puisque là, dans la science elle-même en fait il y a eu des changements de paradigme et donc qu'il y a eu des prévisions qui ont été fausses. Donc Kuhn met en avant en fait comme différence fondamentale entre l'astrologie et la science, le rapport à l'énigme, c'est-à-dire que au fond, par rapport à une énigme, quand on est un scientifique et qu'on se confronte à une énigme qu'on cherche à résoudre, si il y a une prévision erronée, on doit faire de nouvelles observations et de nouveaux calculs. Un astrologue, lui, il trouve une explication à tout échec, donc il n'a pas du tout le même rapport. Et ça, c'est quand même une différence. Essentiel. Voilà, donc je voulais juste.
C'est très intéressant et important de souligner.
Absolument, en effet. Voilà.
Et sur justement ce retour d'une certaine popularité de l'astrologie à partir de la fin du XXe siècle, notamment avec l'essor d'Internet.
Il y a effectivement un intérêt pour l'astrologie. Alors, je pense, si vous voulez, que ça se traduit plutôt par les horoscopes, en fait. C'est-à-dire le fait de pouvoir consulter un horoscope sur une application, etc. Donc, c'est un type particulier d'astrologie. C'est pas la consultation nécessairement, mais c'est l'horoscope.
Et comment on explique ce regain d'intérêt? Alors, il y a la facilité du médium, effectivement, Internet, mais j'imagine que c'est pas la seule raison.
Ben, je pense, encore une fois, si vous voulez, que si vous êtes dans des périodes de grande incertitude, vous cherchez en fait à vous accrocher à ce qui peut vous donner une prise pour réduire l'incertitude dans votre vie. Et si vous voulez des statistiques sur l'évolution du chômage, le taux de croissance, le PIB, c'est des statistiques très générales. Donc les incertitudes que vous voulez réduire, c'est des incertitudes qui concernent votre vie quotidienne. C'est pas seulement des grandes données macroéconomiques. Donc vous vous tournez vers ce qui est le plus proche de votre vie quotidienne. Et les horoscopes sont des textes qui sont tournés vers la vie quotidienne.
Mais c'est intéressant de faire le parallèle entre ces prévisions des astrologues et les prévisions économiques, les modèles économiques qui sont devenus de plus en plus précis, notamment dans la finance à partir des années 70. On a peut-être un besoin de plus en plus fort d'avoir des prévisions ou des prédictions qui soient sûres et qui soient d'un côté basées sur des chiffres et de l'autre basées plutôt sur un récit.
Il faut, quand on raisonne par rapport à la question des prévisions ou des prédictions, et prévisions économiques, prédictions astrologiques, et si on veut les rapprocher, il faut se demander en fait quel est leur rôle, quelle est leur fonction dans la vie des personnes qui y ont recours. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont recours forcément aux prévisions astrologiques ou aux prédictions astrologiques ou aux prévisions économiques, et ce qui leur est demandé n'est pas de même, ça n'a pas la fonction n'a pas la même, de même nature, de même. Donc, il est possible qu'il y ait des développements qui se soient faits, si vous voulez, de manière concomitante. Pour autant, je pense qu'il faut toujours regarder de près dans quelle économie ça s'inscrit.
Il y a une astrologue new-yorkaise, Anne Ortelie, qui a annoncé que ses revenus avaient augmenté de 25% avec la pandémie. Vous avez parlé de l'incertitude, Arnaud Esquéré. Vous diriez que les crises entraînent toujours un regain d'intérêt pour l'astrologie ?
Je n'irai pas jusqu'à cette généralisation, mais il est certain qu'une période de crise, c'est-à-dire une période dans laquelle on n'arrive pas à se projeter, dans laquelle on ne sait pas quel sera son avenir, on a l'impression qu'en fait le pire est à venir et pas le meilleur, on a tendance à chercher toutes sortes de recours pour surmonter ces périodes d'incertitude et à réduire l'incertitude et la prédiction astrologique est fait partie des possibilités vers lesquelles on peut se tourner.
Ça reflète aujourd'hui une quête de sens dans un monde de plus en plus anxiogène et ça peut paradoxalement donner aux individus plus de prise sur leur vie, vous diriez Arnaud Esquéré ?
C'est-à-dire que, en tout cas, telle qu'elle peut être pratiquée par un certain type d'astrologue, effectivement, l'enjeu pour quelqu'un qui va avoir un consultant ou une consultante qui va voir un astrologue ou une astrologue, c'est en fait de retrouver de l'énergie et donc effectivement de retrouver une sorte de prise sur son existence, et donc c'est ça qui peut se jouer, en tout cas c'est ça qui peut être attendu d'une consultation et c'est ça qui peut se jouer pendant la consultation, et puis parfois voilà, parfois ça marche puis parfois ça marche pas du point de vue du consultant ou de la consultante.
Merci beaucoup Arnaud Esquéré, de nous avoir fait découvrir les arcanes de cette profession d'astrologue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Prédire l'astrologie au XXIe siècle en France, publié chez Fayard. Un grand merci.
Merci à vous.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Relocaliser l'industrie textile française, les représentants de la filière en discutaient hier au ministère de l'économie. Le secteur cherche une planche de salut dans la relance et son industrie. La relance qui pourrait être un tremplin pour la relance. Alors la réindustrialisation passera-t-elle par le chat d'une aiguille ?
Eh bien l'industrie textile, c'est vrai, en première ligne lors de la crise, craint maintenant d'être l'une des grandes oubliées du plan de relance. Dans la presse, les professionnels du secteur se succèdent pour plaider la cause du Made in France, relocaliser et vanter ses atouts. Malheureusement méconnus, ces atouts renchérit dans les échos Stéphane Mathieu, dirigeant d'une fabrique de textiles médical. D'abord, le secteur est plus dynamique qu'il n'en a l'air. Autrefois sinistré de la mondialisation avec, en 20 ans, la perte de la moitié de sa production et des deux tiers de ses effectifs, c'est la fin du naufrage depuis quelques années et il progresse de 3 à 4 000 emplois chaque année maintenant. Sa structure, 93% de PME l'a aussi rendu plus réactif. En témoigne ainsi la crise sanitaire, plus de 1400 sites reconvertis dans les masques, parfois avec de nouvelles machines. Et fin août, d'ailleurs, les industries du textile habillement avaient retrouvé 75% de leur activité en moyenne. Et puis aussi, la filière est un enjeu de souveraineté, arguent les professionnels. Elle fournit ainsi 8 secteurs stratégiques, poursuit Stéphane Mathieu, parmi lesquels l'aéronautique, qu'elle médicale, militaire ou civile, ou le tourisme. Eh bien, malgré cela, l'industrie textile est rarement citée par les autorités, si l'on exclut le Fashion Pact d'Emmanuel Macron au G7, et elle cherche donc depuis le début de l'année un relais politique.
Reste que seuls 5% de vêtements achetés en France sont produits sur place. Alors pourquoi le textile serait-il plus facilement relocalisable qu'une autre industrie, Xavier ?
Eh bien, le président de l'Union des industries textiles, Yves Dubief, y croit en tout cas. De pionnier de la mondialisation dans le mauvais sens du terme, le textile redevient un pionnier de la réindustrialisation du pays à sa petite échelle, déclarait-il en mai dans La Croix. C'est vrai que l'obstacle de la compétitivité peut aussi paraître insurmontable. D'abord, comment réintégrer toute une chaîne de valeur localement quand elle est si mondialement fragmentée qu'un jean de prêt-à-porter fait une fois et demie le tour du monde avant d'être acheté. Ceux qui se sont lancés le plus tôt, le slip français depuis 2011 ou bien les jeans 1083 depuis 2013 pour les plus grands succès qui ont réussi, ont bien réussi mais sur des niches et des petites séries. Ensuite, quels produits seraient relocalisables et viables ? Ceux qui nécessitent peu de main-d'œuvre, comme des t-shirts, dit le président de l'Union française des industries mode mode et habillement Marc Pradal, mais pas sûr que toute la confection entre dans ce cadre, remarque le PDG de la marque de lingerie Chantel. En tout cas, le rééquilibrage sera lent et partiel, puisque pour l'instant, la Chine produit plus du tiers du tissu et vêtements du monde, et pour la France, 70% des vêtements viennent d'Asie, 25% de ce qu'on appelle l'Euromed, c'est-à-dire les ateliers du bassin méditerranéen. Dans la Croix aussi, Marc Pradal se prend à envisager la relocalisation en Europe de la moitié de la production asiatique, mais ce serait un grand pas, ajoute-t-il. Alors les autorités politiques pourraient aider à compenser ce déficit de compétitivité. Une partie de la réponse est alors nationale, des investissements ciblés, des crédits d'impôt aux collections, particuliers au textile, et puis un soutien à la formation, voire une hausse de la commande publique. Ainsi, si 10% des achats de l'armée et des administrations étaient faits en France plutôt qu'à l'étranger, 10 000 emplois seraient créés. Une partie de la réponse, maintenant, doit aussi être plus massive, poursuivent les industriels. Là, c'est la taxe carbone européenne.
Ce qui nous amène à l'éco-responsabilité, est-ce que c'est un remède miracle à l'industrie du textile et pour quel modèle économique?
Eh bien, c'est d'abord une tendance de la consommation plus rapide que dans l'alimentaire. Les achats de vêtements baissent d'1 à 2% par an et une partie d'entre eux se recentre sur le made in France, c'est ce qu'on appelle la mode éthique. Un résultat symbolique pour l'instant, le lin, dont la France est le premier producteur mondial, revitalise en effet les régions historiques de production, la Normandie, mais aussi l'Alsace et le Haut-Rhin, où Catherine Pétillon, notre consoeur dans son reportage, y montrait les débuts d'une filière textile française à base de lin. De même, dans les Hauts-de-France, désormais, laboratoire d'une industrie éco-responsable, explique un autre reportage de RFI, à tel point que l'Union des industries textiles envisage désormais une filière lin et chanvre 100% française avec le retour des filatures en France. Alors la relocalisation sera lente et partielle. Hein. Le coton, lui, n'est encore produit en France qu'en très petite quantité et majoritairement acheté en Inde. Il faudra aussi gagner du public quand un t-shirt éthique peut coûter 35 à 40 euros contre une douzaine pour le prêt-à-porter de masse. Alors le textile sera-t-il le fil conducteur de la relance? Peut-être. En tout cas, ni le fondateur des jeans 1083, ni celui du slip français n'avait d'ambition industrielle nationale. Le premier s'est lancé dans la production locale après un défaut de ses fournisseurs, disait-il, et le deuxième, c'était un pari d'étudiant, avouait-il à la BBC, pour montrer qu'il est toujours possible de faire des choses en France.
Merci beaucoup Xavier Martinet, rendez-vous mardi pour un nouveau journal de l'Écho. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on? C'est la fin de votre magazine d'économie et on se quitte avec Everything You Touch Is Gold de Grégory Porter. Demain, qui veut la peau des actionnaires? Votre débat du vendredi opposera les économistes Pascal Quiry et Jean-Marc Lalanne. Et puis la semaine prochaine, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. On ira voir comment nos voisins font face à la crise épidémique et économique. Direction le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Everything is new and exciting. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. Everyone that I know in my life is asking me, is she gonna be your wife? Oh, everything you touch is good.